Écoutons de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, les versets 14 à 30. Il en va d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, 5 poids et talons ayant la plus haute valeur monétaire. À un autre, 2 talents, à un autre, 1 seul, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla à creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres en disant « Maître, tu m'avais confié 5 talents. Voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup, je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit, « Maître, tu m'avais confié 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup, je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » S'avançant à son tour, celui qui avait reçu 1 seul talent dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit « Mauvais serviteur craintif. Tu savais que je moissonne où je n'ai rien répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent. » Et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera, et il sera dans la surabondance. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Cette fameuse parabole des talents, nous en avons déjà une interprétation en français par le glissement de sens du mot talent qui signifie aujourd'hui une capacité, un don personnel que l'on peut mettre pour notre service ou pour celui des autres. Mais tout de même, si l'on revient au texte lui-même, il s'agit bien d'éléments de la finance repris par Jésus. Le talent, le plus gros poids et talon ayant par là la plus haute valeur monétaire du moment, équivalent à plusieurs années de salaire. Une somme différente confiée à chacun, selon ses capacités, nous dit-on. Est-ce à justifier des différences dans les salaires, voire dans les héritages? Enfin, même si le maître est revenu, nous dit-on, longtemps après, le placement semble à haut rendement. Il a permis de doubler la mise. Est-ce à justifier une pyramide de Ponzi, soit un montage financier frauduleux, où les bénéfices proviennent des apports des derniers entrants, ou alors à justifier la méthode des fonds de pension, visant à pressurer les entreprises et avec elles, leur personnel et leurs ressources? Comme je ne pense pas que Jésus ait voulu faire un cours de finance, ces éléments sont plutôt là comme des miroirs grossissants sur une réalité qu'il nous faut discerner. Rappelons-nous, Jésus parle en parabole parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils entendent sans entendre ni comprendre, pour ne pas se convertir. Alors, si nous souhaitons nous convertir à l'Évangile, il nous faut regarder, entendre, comprendre. Il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. On connaît l'inventaire des biens de cet homme. Ici, pas de terrain, pas de vigne, ni même d'habitation, mais 5 talents, plus 2 talents, plus 1 talent, soit 8 talents. Plus que 7 qui signifie la plénitude. C'est déjà le 8 de la résurrection, en tout cas celui de la surabondance. Autrement dit, cet homme qui part en voyage donne tout. Alors, permettez-moi de paraphraser. Il en va de Jésus qui, mort et ressuscité, monté aux cieux, appela les chrétiens et leur confia tout son évangile. Ou plus universel, il en va de Dieu qui, laissant l'humanité à sa liberté, appela les hommes et les femmes et leur confia tout ce qu'il possède, tout son amour en partage. On peut ainsi, me semble-t-il, mieux comprendre que si les talents représentent l'amour, alors ils sont donnés selon notre capacité à aimer. Car celle-ci est tout autant le résultat de nos choix que de notre histoire et de ce que nous avons pu subir. Telle personne parvient à ouvrir son cœur à toutes les situations qu'elle rencontre. Telle autre n'y parvient que lorsqu'elle est parvenue à entrer dans une relation de confiance. Et telle autre, à force de blessures qu'elle a pu finir par infliger elle-même dans une sorte de cercle vicieux, ne peut plus aimer, que son animal domestique. Nos deux premiers serviteurs ont été bons et fidèles en peu de choses. Pourtant, la valeur des talents de notre histoire n'est pas rien. L'amour est un trésor immense, mais qui ne demande pourtant que peu de choses. Ce qui nous est rappelé dans deux autres paraboles. La première, un peu avant notre texte, et la seconde qui le suit immédiatement. La première est celle dite du serviteur fidèle, appelé, en l'absence de son maître, à simplement donner la nourriture à ses compagnons de service et à s'abstenir de les battre et de s'abîmer en plaisir égoïste. La seconde est celle dite du jugement dernier, où il est question de nourrir, donner à boire, accueillir, vêtir et visiter toutes celles et ceux qui dépendent de nous pour vivre bien ou mieux. Pour tout cela, pas besoin de beaucoup de talent dans le sens contemporain du terme. Un jour, Thérèse de Lisieux, encore enfant, questionna sa sœur Pauline sur l'égalité de gloire que Dieu donne ou non au ciel à ses élus. Sa sœur lui demanda d'apporter un grand verre et de le remplir et de faire pareillement avec un dé à coudre. Puis elle lui demanda lequel était le plus plein. Thérèse de répondre qu'ils étaient aussi pleins l'un que l'autre et qu'il était impossible de mettre plus d'eau qu'ils n'en pouvaient contenir. Il en est de même pour la source vivifiante de l'amour de Dieu avec nos capacités d'aimer, à la différence que nous pouvons augmenter cette capacité, du moins en ce monde-ci. La capacité de l'un et de l'autre des deux premiers serviteurs à aimer en peu de choses, c'est-à-dire suivant la capacité de l'un et de l'autre, leur a ainsi permis de faire fructifier cet amour, d'augmenter leur capacité à aimer. Et voici que leur maître leur donne une récompense identique, non pas un salaire, un diplôme ou une médaille du travail, mais de venir se réjouir avec leur maître, autrement dit, de partager la joie de Dieu. Alors, à la personne qui n'a pour seule capacité d'amour que d'aimer son animal domestique, Dieu pourra lui dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, tu n'as pas maltraité ton animal, mais tu en as pris soin, et tu n'as pas laissé ton cœur devenir totalement de pierre. Viens te réjouir avec ton maître. » Mais nous savons que ce ne fut pas l'attitude de celui qui n'avait reçu qu'un talent. Pourquoi? Parce que voici l'image qu'il a de Dieu. « Maître, je savais que tu es dur, que tu moissonnes où tu n'as pas semé, que tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. » C'est là que le prédicateur que je suis s'est demandé s'il n'était pas risqué pour lui-même de prendre ce texte. Car nous lisons dans les évangiles, c'est de la manière dont vous jugez que vous serez jugé, et c'est de la manière dont vous mesurez que vous serez mesuré. Et le maître de la parabole de condamner le serviteur au un talent en reprenant ses propres propos. Tu n'es pas cohérent. Si l'image que tu as de moi, si ce que tu prêches est un Dieu injuste et sévère, pourquoi n'as-tu rien fait? La peur de ce que tu décris comme de l'injustice et de la sévérité n'aurait-elle pas dû te pousser justement à agir plutôt que de ne rien faire? À une certaine époque, on aurait pu parler par exemple de la peur de l'enfer. Alors voilà que celui qui a refusé d'aimer n'a plus rien face à Dieu. Même l'excuse qu'il s'était donnée lui a été retirée, son hypocrisie démasquée. Voilà en quoi Dieu qui nous aime, mais qui n'est pas indifférent de nos choix face à cet amour, nous demandera des comptes. Et celui qui a augmenté sa capacité d'aimer à 10 talents pourra bien aimer à 11 talents, si je puis dire. Compenser ainsi le manque d'amour du troisième serviteur, car ce premier serviteur parvient déjà à vivre de la surabondance de cet amour à cœur ouvert qui vient de Dieu. Mais à nous qui ne vivons pas forcément en cette surabondance, Dieu nous demande au moins d'aimer simplement à notre mesure, mais sans fausse excuse. Cependant, comment reconnaître la différence entre une fausse excuse et une faible capacité du moment? Peut-être tout simplement en sachant au fond de nous que si nous faisons ou ne faisons pas cela, si nous disons ou ne disons pas cela, nous enterrons l'amour. Alors, avant de conclure, j'aimerais passer par la case banque. C'est par elle que nos deux serviteurs ont doublé leur mise. Or, qu'est-ce qu'une banque? La mise en commun de capitaux pour que telle entreprise puisse investir et que l'on puisse en retirer du bénéfice. Est-ce que nos deux serviteurs auraient obtenu le même bénéfice si leurs capitaux n'avaient pas été mis en commun? C'est aussi cela cette parabole. L'appel ou le rappel à mettre en commun nos capacités d'aimer, quelles qu'elles soient. Et bien entendu, en sachant mettre au service de cela nos talents contemporains, nos capacités et nos dons, pour que notre humanité puisse en retirer du bénéfice et que nous puissions, ainsi, nous réjouir avec notre Dieu. Amen.